Mesdames et messieurs, merci de votre attention et de votre patience. Je vais donc clôturer la 35e de convention de science-fiction et de convention de fantaisie par un exposé sur les dragons dans l'imaginaire. Le titre complet, c'est Les dragons dans l'imaginaire, artifice fictionnel, alibi d'auteur, fantaisie d'auteur ou alibi d'écrivain, quelle est la place du dragon ? Derrière ce titre long, abscons, et un peu compliqué, je veux déterminer qu'il y a l'image du dragon que nous avons tous dans notre attention collective et l'image qui en est faite par les auteurs, les cinéastes, les réalisateurs. Cette image peut être parfois très différente d'une personne à l'autre. Et pour commencer, alors mis à part pour les personnes qui écouteront cette conférence via un podcast ou qui sont actuellement en train de faire une activité qui est une supervigilance, je vais vous demander de fermer les yeux. Et vous allez fixer dans votre esprit l'image qui viendra à l'énoncé du mot que je fais. Au bout de quelques mots, nous ferons un débriefing qui, je l'espère, vous dévoilera l'intérêt de mon exposé. Je commence. Pensez à un cheval, à un tigre, à un petit chaperon mignon, à une licorne et à un dragon. Rouvrez les yeux. Est-ce que tout le monde a vu à peu près ceci ? Maintenant, des choses volontairement de plusieurs couleurs, mais est-ce que votre tigre ressemble à ceci ? Est-ce que vous voyez souvent des tigres ?
Non.
D'accord, à part ceux qui vivent dans un zoo, est-ce que vous voyez souvent des tigres ? C'est rassurant. Est-ce que ceux-ci sont des petits chatons mignons ? Cela aussi. J'arrête la sélection, il y en avait trop. Est-ce que ceci est une licorne ? Est-ce que vous avez souvent vu une licorne ? À part ceux qui voient souvent la licorne rose invisible au fond d'un verre, on les reconnaît. Et un dragon, par contre. Vous y avez tous pensé ? À votre avis, est-ce que vous avez tous pensé au même ? Est-ce qu'il a des ailes, pas d'ailes, deux pattes, quatre pattes, une tête, plusieurs têtes ? Est-ce qu'il a une couleur particulière, est-ce qu'il trace le feu, est-ce qu'il vit dans l'eau ? Est-ce qu'il a un trésor, plusieurs trésors ? Nous avons donc un nom pour une créature qui n'existe pas plus que la licorne, a priori. Et pourtant, contrairement aux autres créatures, vous avez une version différente. Et j'ai un dernier nom pour vous. Refermez les yeux. Hippocampe et Hippocampus. Rouvrez les yeux, respirez. Ça ressemble à quoi ? Une méchante poussière de nom. L'animal n'existe pas plus et le nom ne donne rien. Rien qu'on puisse déterminer. J'ai fait une recherche Google, il n'y a pas d'image qui détermine ce que c'est qu'un hippocampe. Le dragon, par contre, on en a des milliers de versions différentes. Et je vais commencer pour vous présenter les deux grandes familles principales, le dragon asiatique et le dragon européen. Le critère, le caractéristique, et l'usage qu'un auteur ou un lecteur peut en attendre. Ma deuxième partie sera sur la fantaisie des dragons, sans dragon, où son dragon aura un rôle prééminent. Puis le dragon, mais hors les tordures de fantaisie. Ensuite, ma partie préférée, ce sera celle qui parle des vrais dragons, des ressemblants des dragons, qui jouent le rôle d'un dragon, et dont on attend qu'il ne fasse que ça. Juste après, il y aura des dragons qui ne sont pas du tout à leur place. Des dragons qui seraient facilement et agréablement remplacés par autre chose. Mais il faut croire que de mettre un dragon dans ce rôle-là, c'est bon. Et à la fin, ce pourcentage, il aura une petite surprise. Je m'en réjouis d'avance. Qu'est-ce que ceci ? C'est un cerf. Qu'est-ce que ceci ? Bon, dans ce principe, c'était un chameau. On peut dire un cavalier, ça marche dans les deux. En Asie, le dragon est censé représenter la somme d'environ 9 animaux. Voici une illustration extra connue de Shenron, le dragon de Dragon Ball. Il a les doigts pour serre. la forme de tête du chameau. Les yeux du démon, les écailles de la carpe, le ventre du mollusque, les pattes petites et les cervelettes. L'enfant asiatique n'a pas d'air, mais il vole. Alors ensuite, on verra des auteurs qui utilisent un modèle asiatique dans un contexte européen et vice versa, mais le modèle de base, le dragon asiatique n'a pas de corps. Celui-ci n'a pas d'oreille non plus. On voit des versions avec des oreilles, comme par exemple celui du Shiro de Miyazaki. Agu a des oreilles. Par contre, il a une modification, moustache et barbe ne sont pas les mêmes, et les cornes ont changé à la place des ailes. Il n'a toujours pas d'ailes et il vole. En Asie, le dragon n'est pas un animal lié au feu. Il vit dans l'eau. Il vit de l'eau. Il pousse dans les. Une légende veut que les carpes qui remontent les cascades qui s'appellent le chute du dragon, arrivant de la cascade et d'un saumon, devient un dragon. On est très loin de l'image du dragon qui crève le feu. Ceci est l'illustration du finisseur sans fin et c'est Falcor, ou Fuchsir, sur la version du livre. C'est un livre allemand, mais sa représentation est typiquement asiatique. Sauf que c'est un dragon porte-bonheur, à la tête d'un chien, mais lui, il ne vit que d'air. Chacun de ses corps lui permet de respirer. S'il met une patte dans l'eau, il se noie. Donc là, on a un changement par rapport à la version originale. On a des critères qui restent les mêmes. On a un changement au niveau du visuel. On a un changement par rapport à l'élément majeur. Mais ce n'est pas un dragon européen, même si c'est l'histoire d'Atlantique. Par représentation, ceci est un kimono où on voit un dragon typiquement chinois compter le nombre de griffes sur sa patte, à gauche, à droite de l'écran. Il a 5 griffes. En Chine, le nombre de griffes détermine la qualité du dragon. 5 griffes, c'est un dragon impérial, symbole de l'empereur, de la longévité postérieure de l'empereur. Et que normalement, seul l'empereur et sa famille ont le droit de porter cet emblème. Nous avons donc ici forcément le kimono de l'empereur au Japon. Ou un produit dérivé qu'on trouve pour 49 euros sur Internet. Notez quand même qu'on retrouve la forme de l'aile du chameau et les bottes de serre, la moustache, la barbe. Passons maintenant au dragon européen, celui qu'on connaît le mieux. Voici ce mot descendant la nuit du lac. Il a des ailes. Il crache le feu, et je peux vous assurer qu'il est extrêmement magnifique. En Asie, il n'y a pas de tradition de tour de dragon. Le dragon est un être qui n'est pas forcément pacifique, mais qui est plutôt bienfaisant. Il apporte la pluie sur la récolte, il ne crache pas le feu pour détruire les maisons, il est quasiment immortel, il n'a aucune raison de voler, puisqu'on ne peut pas le tuer. Le dragon européen, avec ou sans ailes, on peut le tuer. Voici le haut. Dans le scénario de Tolkien, il n'a plus d'ailes. Plutôt, il n'a pas encore d'ailes, c'est le père du dragon, le prototype. Il y a déjà tout ce qu'il faut sauf les ailes. S'il avait des ailes, il ne serait pas mort. Et si on l'aperçoit dans l'image, il est en train de se faire porter le vent parce qu'il essaie de traverser un ravin dans lequel se cache le héros. Le dragon d'Europe, par sa malice et sa malveillance, génère forcément des héros en dragon. Puisque si personne ne se pose vraiment, c'est la fin de l'humanité. Le contexte est donc différent d'avoir un dragon qui est l'envoyé des dieux, voire une arcanie tout simplement. Le dragon européen, c'est l'envoyé du diable, le diable lui-même, ou simplement un horrible monstre qui ne peut pas communiquer facilement avec l'humain. Ça, je vous l'ai tout à l'heure. Parmi les autres récits du dragon européen, on passe de la fin de Sophie, la remonte au 5e siècle de l'Empire. Il est maléfique, malveillant. Il vole, il ne vole pas, il a une capacité de destruction très forte. Il est cupide, extrêmement rude. Il dort sur un tas d'or et il peut avoir des joies avec ses siens. Le dragon asiatique ne collectionne pas. Il n'a pas de demeure, il n'a pas de palais. L'air, l'océan sont ses ennemis. Le dragon européen est un sédentaire. Une fois qu'il s'est posé quelque part, il reste. Au besoin, il ménage dans la zone d'entour pour ne pas déranger par les humains, les nains, les elfes et les hobbits. Certains n'ont pas fait de la façon de. Et au lieu de ces critères, du dragon très classique qu'on a tous vu quelque part, Voici quelques-unes des grandes sagas de fantasy dans lesquelles le dragon n'est pas extrêmement présent. Ceci est un tatouage qu'un grand malade s'est fait faire à la ressemblance de celui de Ronald Thor dans la Rue du Temps. Le personnage s'appelle le dragon incarné. Et vous voyez à l'écran le seul dragon vivant. J'en suis à un bout de 10 000 pages de lecture, c'est le seul dragon du livre. J'en reparlerai plus tard avec Fred qui me fait des points signes, mais on n'a pas de dragon volant dans l'histoire. On n'a pas de crachant de feu qui détruit les villes. On a bien plus puissant. Mais on parle du passage avec le dragon, les gens eux-mêmes ne savent pas ce qu'est l'animal sur le tatouage. Après, si on l'appelle dragon, mais qui en a jamais vu? Le Seigneur des Anneaux, autre vendeur de fantasy, n'a pas de dragon. Par rapport aux autres films de Tolkien qui en ont chacun un, le Seigneur des Anneaux n'en a pas. Quoi de plus? J'en reparlerai tout à l'heure. Dans le Trône de Fer, le dragon est considéré comme une espèce qui somme, où on voit de retour, il y a toute une partie de l'histoire qui se passe indépendamment du fait qu'il n'y ait pas de dragon. Dans le cycle de Morgan, les dragons, c'est intéressant de savoir, le premier tome en français s'appelle Éric de Rodin. En anglais, c'est Éric de Rodin. En français, on a changé le titre. Pour mes dragons, il n'y a pas de dragon dans l'histoire. Pourquoi que ça fait long. Et en quatrième découverte, on dit que les dragons ont disparu depuis longtemps. Et pourtant, c'est la fantaisie. Un peu d'art, mais sans doute. Dans l'Assassin Royal, on attend très très longtemps avant de voir le bleu d'un dragon. Et c'est pas forcément celui qu'on connaît. Dans Conan le Barbare, je crois qu'on n'a pas un seul coup de dragon qui se respecte. Et si on a bien Conan le Barbare. Et dans la poussière de ces petits, qui mélange plusieurs genres, on n'a pas de dragon typique. Quoique, on va voir bien. Maintenant, passons aux dragons que l'on voit et qu'on reconnaît, mais qui ne font pas partie d'une œuvre qui est représentée par la fantasy. Ceci est un petit diagramme sur la bâche de terre. Vous avez l'échelle qui représente un humain de taille standard face à des dragons de taille standard, juridiquement modifiés pour différents usages. C'est l'humain qui modifie le dragon pour en faire ce qu'il veut. Donc, ce sont vraiment des dragons, mais ils ne sont pas une espèce autonome libre de faire ce qu'elle veut. C'est un outil pour l'homme, un outil indispensable et précieux, mais on ne peut pas dire que ce soit une œuvre de fantaisie. Mais c'est quand même un peu essentiel. Ceci, plus récemment, l'affiche du Règne du Feu, les acteurs sont mis sur la droite, un hélicoptère Apache H-64. Je vous assure qu'on n'est pas en fantaisie. On n'est pas forcément un scène non plus. Là, on a plutôt du fantastique, où on a une créature qui arrive dans un monde contemporain. Et pourtant, c'est vraiment un monde. Il vole par le feu, les malveillants, s'il avait trouvé l'or du sol de Londres, il se sera assis dessus. Maintenant, ma préférée. En 54, le Japon, traumatisé par l'angle militaire, s'est inventé autre chose que le dragon classique. Godzilla. La créature, le chat est un autre monstre. On ne sait pas si c'est un dragon ou un dinosaure atomique, 250 mètres de haut, mais il a des critères de destruction qui le rapprochent de ce qu'au Japon considère comme étant l'apanage du monde européen. Parce que si c'est un dinosaure, il lui manque certaines caractéristiques. Le dragon est suffisamment varié pour que Godzilla puisse en être un. Pour le chat, c'est une autre histoire. Je crois que c'est un tigre européen. Et... Alors, il n'est pas d'image tout de suite, mais ça viendra. En science-fiction pure, on a des anciennes épisodes de Flash Gordon, dans lesquels, à travers l'espace, on voit des créatures qui sont appelées dragons. Nous verrons plus tard que l'appellation dragon est peut-être un peu surprenante, ou du moins très largement employée. Et j'en arrive à la partie suivante. Les dragons, s'il y en a, à quoi servent-ils ou sont-ils? Ceci est une copie d'une carte du 6e siècle. On aperçoit l'Amérique sur la gauche, un complexe qu'on n'a pas encore trouvé, et du côté de l'Indonésie, sous l'équateur, il y a une mention qui draconesse. En latin, ici, il y a des dragons. Mention qui, comme les dessins de noms en pleine mer, était là pour vous présenter que c'était des terrains de Bouddha, et qu'il y avait probablement des monstres, parce que les inscriptions qui partout en revenaient pas. Les cartographes ont marqué à titre de sécurité que là-bas, il y a des dragons. Et un dragon, ça peut être un mélange entre un dragon asiatique, un dragon européen, et dans le dragon du pied de la mer, une taglia, est un vrai dragon, mais qui ne crache pas du feu, et qui parle. Et à l'intérieur de sa propre surprise, de son espèce, parmi la chaîne alimentaire de général. Il y a un lien avec d'autres créatures, avec les humains aussi. C'est pourtant vraiment un dragon, il joue son rôle de dragon. Là-haut, ici, que nous avons déjà vu, il joue le rôle de dragon. Quand on est dans un village où le dragon arrive, chacun sait quoi faire. Courir et fuir. Si on a dit qu'on parle d'heure qui arrive, les gens sortent pour récupérer les offrandes. On sait quoi attendre de la part d'un dragon. Dans la saga funéraire de Naomi Novik, il y a des dragons de toutes sortes, partout, de toute taille, de toute espèce, de toute couleur. Et pourtant, voici Téméraire. Vous l'avez reconnu, c'est un dragon chinois. Il a une barbiche, des barbillons et des ailes. Oups! Parce que dans ce monde-là, tous les dragons ont un format européen. Même ceux qui sont typiquement alliés à un pays propre. Avant même de parler de croisement et d'hybridation, l'auteur a considéré que le demi-dragon, dans sa vision du monde, c'est un dragon avec des ailes. Même pour les dragons asiatiques. On retrouve là encore un croisement entre l'image traditionnelle européenne et asiatique. On n'en a pas fini là-dessus. On parle d'administration, voici Smaug sur votre droite, dormant sur son trésor, indûment volé au nain, et sa représentation telle qu'on veut nous l'imposer au cinéma, avec un acteur britannique qui va au Vivarium voir comment se comportent les lézards afin de bien jouer son rôle de dragon. J'ai envie de lui dire qu'un lézard et un dragon n'ont peut-être pas le même comportement. Lui pense que ça l'aidera à tenir son rôle. J'ai envie de lui dire qu'il aura du mal à voler au-dessus de la ville en crachant du feu. Lui pense avec certaines prothèses qu'il pourra peut-être gagner. Vivement le dessin. Maintenant passons aux dragons pour lesquels j'ai un simple doute sur le fait qu'ils soient des dragons ou qu'ils viennent d'être appelés des dragons. Derrière moi, sous vos yeux effarés, une image extraite du film Eragon, tirée du livre du même nom, sur la naissance d'une chose que l'auteur appelle un dragon. On ne voit pas forcément sur l'image, mais il y a des plumes de doublé et des poils de coquille. Le tout sur la même créature qui vient de naître. Ça ne s'arrangera pas en grandissant, mais dans le livre, il n'est même pas décrit comme ça. La création de l'auteur n'est pas suffisamment solide dans le livre pour que le réalisateur ne soit pas absolu, alors que l'auteur vivant a cosigné aussi pour changer la façon dont c'était perçu sa créature. Ça aurait été un hypocrite, moi ça m'aurait fait pareil. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit le livre. Oui, un dragon. Maintenant, en littérature, la cité des livres qui rêvent. S'il y a le titre tout seul, on ne se dit pas que, en réalité, il y a des humains qui font leur boulot d'humains dans leur vie d'humain, et des dragons qui portent des fraises, qui écrivent des livres, des imprimés, et font de l'alchimie. Ils portent des costards, ils peuvent être des récepteurs, et pour moi, ce serait des humains à trois têtes, c'est pareil. Pourquoi faire des dragons? Est-ce que ça fait bien sur la couverture? Ou pas? Il y a un côté triceratops quand même avec le rhinocéros sur le nez. Comme le monocle de jeu. Et là, avec la sensation de l'abonnement que vous connaissez, Guy Leclerc, la version française de Flash Gordon, avec quelque chose qu'ils appellent le dragon volant. J'ai l'impression que le graphisme s'est épargné un petit peu de couleur et on peut faire un serpent qui vole. Encore plus fort, cette fois c'est Flash Gordon 1934, voici le bâton de feu. Je vous laisse monter les dents de Zoma et on va voir. Si vous voulez savoir où est la tête, vous cherchez l'espèce d'appendice avec un Y en bout. Il y a une oreille en pointe qui repart vers la droite. Il crache un petit peu de feu et les dents de Zoma se sont séparées. Enfin, les pattes, c'est encore à déterminer. Encore plus fort, tiré de la bande dessinée toujours de Flash Gordon, ça c'est le dragon des glaces. Je vais dire un lézard géant, ça marche aussi. On voit ici le rôle prédominant de la femme dans la science-fiction. Vas-y, Flash. Et mon préféré, Lady Mapper, le dragon des neiges. Il sert sur sa queue de castor avec son corps d'eau, ses petites pattes rabougries et sa tête hydre au front se frappant en balade. J'avais pas réussi à lever la lunette, sinon ça va tomber sur l'autre sans balade. C'est un dragon des neiges. Sûrement sur une lointaine planète d'une lointaine galaxie. Nous n'avons pas le même langage. Maintenant, on va partir des choses sérieuses. En 1955, Ray Bradbury, qui a écrit plus pour l'imaginaire que pour un genre très fini, a écrit une nouvelle qui s'appelle Les Dragons. Quand je dis une nouvelle, c'est celui qui va changer. L'histoire est la suivante. Pour ceux qui la connaissent, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Dans une langue quasi désertique, deux chevaliers discutent entre eux, les dragons qui terrorisent la campagne. Au loin, ils entendent son rugissement. Ils aperçoivent la lueur de ses feux. Bravement, stupidement, et les chevaliers décident de foncer, l'encaisser vers le dragon. Peut-être qu'un peu de chance et qu'on va le tuer. Tagada, tagada, et part le train. Pendant ce temps-là, les chevaliers se disent, c'est pas mieux comme un bruit. De toute façon, moi je ne veux pas passer par ici, il y a des choses bizarres qui se passent. Fin de la nouvelle. On invente donc un endroit où les gens pensent que c'est un dragon. Les autres, de l'autre côté, ne sont même pas conscients qu'on croit que c'est un dragon. C'est un train. Et je parlais de la question tout à l'heure. Il n'y a pas de raison à propos en parler avec des ailes de parcheveux. Nous avons l'aigle mono. Un train. Commandé par un soir ordinateur intelligent qui a posé des lunettes. Vicieux et pervers. Un peu comme Saul, il pose des lunettes sachant que même s'il perd, il gagnera. Il a une forme serpentine. Un peu comme un lézard. Il a une carapace blindée. Un peu comme un dragon. Et s'il y a un dragon dans l'œuvre, c'est lui qui en trouve le plus. C'est un super train. J'en arrive à la fin de mon exposé, avec juste quelques chiffres. J'ai fait un petit relevé sur les œuvres qui comportent ou parlent des dragons, avec comme personnage principal, simplement son aide, depuis le 5e siècle. Entre 1400 et 1400, donc il n'est pas comme avant, il n'est pas la théorie de la nature, j'ai retrouvé trace de 7 livres parlant de dragons. En mieux, c'est à écrire et pas finir. La légende de Britain 3, et ainsi de suite. 7 dragons en livre. Entre 1400 et 1600, il n'y en a que 3. De 1800 à 1900, il y en a 5. Nous accélérons. Et de 1900 à 1930, j'en ai 6. 1937, pareil, il colorie avec ses mots. Et là, de 1940 à 1970, on en a 21. Et là, ensuite, c'est l'explosion. De 1980 au jour, il y a 5. Je ne parle pas des dragons, je parle des livres. En plusieurs tomes, qui comportent au moins un tome. On peut dire sans se tromper qu'il y a une accélération de vitesse du dragon. Mais à quel usage, à quel point ? Puisque en 1910, le seul livre perdu dans le monde, c'est un joli livre. En le disant pas l'autre. Force est de constater que le dragon n'est pas celui que nous avons connu. L'usage qu'on en fait change suivant la perception, l'origine et la culture de l'éditeur, voire de l'éditeur, du traducteur, du dessinateur. Un dessinateur, je vous fais confiance pour avoir entendu ce livre. Et nous arrivons à la partie que j'attends, et vous aussi, le Seigneur des Anneaux n'a pas de dragon pour lui-même. Par contre, il y a des caractéristiques qu'on retrouve chez les autres dragons de Tolkien. Tout le monde a vu le livre, le film. Eh bien, je vais faire un petit relevé des descriptions qu'on trouve chez les vrais dragons. Et je vais vous demander de me dire à quel personnage ça s'applique le mieux. Mon personnage qui est rusé. Il est orgueilleux, il est sage, stupide et il est mouvement. À partir du moment où vous avoir trouvé, levez la main et venez me souffler à l'oreille à l'estrade. Non, parce qu'il y a des chances que vous n'ayez pas tout pour moi. Mon personnage porte des lumières différentes. Là, vous pensez au gilet de Smoke qui brille tout de suite. La lumière s'en fait sur lui. Sa voix est un pouvoir empoisonné. Là, vous pensez facilement à Gaon qui a torturé mentalement les enfants de Gaon. À Smoke qui a réussi à faire ce que vous voulez, mais lumière vient le fouiller. Et vous m'assurez. Nous avons des propositions, c'est intéressant. Je continue parce que normalement à la fin tout le monde va se frapper le front en se disant c'était évident. On associe mon personnage au serpent, de plusieurs façons différentes. Mon personnage est extrêmement vieux, ou vieillant pour selon. Et il est associé au feu de manière totalement inégalable. À part les trois qui ont déjà levé la main, qui a trouvé mon nom? Je donne les indices. Son chaîne, vous pouvez dire que c'est peut-être de dire que je suis en danger. Si par contre c'est un autre format ici, je vous parle d'un autre format de texte. Imaginez un livre, un dauphin, un dauphin de pleurs. Non, c'est bien pas. Mais voilà, on peut avoir un dragon qui soit à fond d'emploi par rapport à ce qu'on a dans le livre. Mais sinon, c'est le propre de l'auteur de rester dans quelque chose avec ça. Bilbo le Hobbit, le Hobbit, c'est le non-héros. Il ressemble à rien, il est une histoire de saut. Mais c'est plus le héros de la tête. Mais dans le monde, il pourrait être le bienfaiteur. L'auteur a le droit à le faire. C'est aussi la difficulté de faire quelque chose. Un démon qui se dit, c'est pas surprenant. Donc les auteurs ont déjà parlé. Et l'ange des démons, c'est ceci. D'ailleurs, le super.
Alors, tout ce que vous avez évoqué, j'ai vu ce que vous avez lu, effectivement, dans le drame de Georges, le principe, c'est un autre univers dans lequel le héros est projeté dans son rêve, et la première chose dans laquelle il s'incarne, c'est donc sur un magicien qui prend un peu son sort, qui s'incarne dans un dragon. Qui n'est pas très doué en magie et qui est censé défendre le territoire de l'environnement. Donc, toute la série, l'idée, c'est le fait que les dragons sont des êtres qui vivent dans la population sans aucun problème et qui participent à leur protection. Et effectivement, dans le film de Dragon, que tu n'as pas vu, le principe, c'est que tous les dragons que la population du village de Lickup craint, sont en fait des dragons qui eux-mêmes ont affaire à un bien plus important dragon qui les maintient dans une sorte d'esclavage et qui les oblige à agir pour lui et à mieux nourrir. Donc les dragons sont des espèces d'esclaves du maître de tous les dragons qui les oblige à terroriser la population.
Le dragon, comme tout le personnage, peut revêtir toutes les formes. On peut imaginer une société de dragons qui sera ce que l'auteur en fera. Je repense aussi à la dessinée dont on a parlé il y a quelques temps, qui s'appelle le Volant Dragon, dans lequel on avait des gentils dragons, des méchants dragons, dans un monde magique, qui étaient en plus contaminés par la civilisation. L'un des dragons était justement un scientifique du monde moderne qui s'approuvait incarné dans le corps du monde, ne sachant pas comment ça marchait. Quand ça tombe bien, je vais la scientifique que je veux. Et là, on voit qu'on peut faire ce qu'on veut. Quand on peut faire ce qu'on veut, il y a deux autres. Un cheval. On peut faire un cheval. La créativité de l'auteur permet de faire ce qu'on veut. En s'enrichissant au point imaginaire, on peut mettre plein de créatures, les données, les caractéristiques, la volonté, voir exactement comment on veut. Même si, première tête, si on voit un cyclope à trois têtes, un soleil à trois têtes, on a peut-être une appréhension de la théorie. Peut-être qu'il y a quelqu'un de sympathique. Mais peut-être qu'il y a une vision déformée, il y a peur de